Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello, ici Pauline Hignot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le gratin Gabrielle Conesil, que certains d'entre vous doivent déjà connaître sur les réseaux sociaux. Ancienne mannequin, Gabrielle a réussi à rassembler une communauté de plus d'un million de personnes sur Instagram et depuis a lancé sa marque de prêt-à-porter, La Semaine Paris, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Si l'épisode vous a plu, vous pourrez retrouver Gabrielle sur son compte Instagram, bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs à lui faire un petit coucou. Je vous jure, elle répond. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai contactée. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode. Gabrielle est une jeune femme vraiment intéressante et j'étais ravie de lui donner la parole au micro du gratin. D'abord parce qu'elle bat en brèche pas mal d'idées reçues sur le monde de l'influence ou du mannequinat, des sujets sur lesquels elle n'a pas sa langue dans sa poche et s'est d'ailleurs engagée sur ses réseaux. Mais aussi parce que Gabrielle est une femme qui s'assume et qui n'a pas peur de parler de ses problèmes, des vrais, pour aider celles et ceux qui pourraient être dans la même situation qu'elle. C'est ce qu'elle a fait en parlant d'abord de son endométriose, qui l'a rendue infertile, mais aussi en nous expliquant le difficile lancement de sa marque de prêt-à-porter, La Semaine Paris, en plein Covid. Pas une mince affaire, je peux vous le dire. Gabrielle nous en parle en détail dans cet épisode. Vous verrez, c'est passionnant pour toute personne qui s'intéresse à la création d'entreprises. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gabrielle Conesil. Bonjour Gabrielle.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de t'accueillir chez toi.
Merci, bienvenue dans mon humble demeure.
Voilà. J'aimerais commencer par rentrer dans le vif du sujet, si ça te va. Et je me suis dit que le meilleur moyen, ça serait de commencer par ta marque, La Semaine Paris. Beaucoup d'auditeurs du gratin sont également des créateurs ou des futurs créateurs de marques, s'intéressent, je pense, beaucoup, beaucoup à l'entrepreneuriat. Et ce que je trouve absolument génial dans ton parcours, c'est que tu as fait déjà 1000 choses. Mais là, tu en es encore, malgré tout, au début de cette aventure. Et donc, j'aimerais vraiment justement creuser ce sujet pour, je pense, toutes les personnes qui se disent « Ok, comment ça se passe réellement quand on se lance ?» et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Et donc, si ça te va, j'aimerais bien que tu me prennes par la main, un peu métaphoriquement parlant, et que tu m'expliques justement comment tu as monté La Semaine Paris. Donc, peut-être la première question assez simple, hein, à laquelle tu as déjà répondu souvent, c'est d'où est venue l'idée et qu'est-ce que tu as essayé de faire avec cette marque ?
Alors, déjà, je vais commencer par dire quelque chose qui est assez évident, mais juste pour le mettre au clair, j'ai évidemment énormément de chance parce que quand j'ai monté La Semaine Paris, j'avais déjà une communauté sur les réseaux sociaux qui était d'un million d'abonnés. Donc déjà ça, clairement, c'est une facilité où évidemment, on va pas se mentir, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide aujourd'hui à pas avoir eu besoin d'investir des sommes extrêmement importantes dans le marketing, etc., pour vendre mes pièces. Donc voilà, je le dis parce que c'est vrai. Après, La Semaine Paris, on l'a lancé il y a un an et ça a été une année extrêmement compliquée, évidemment, parce que ça a été l'année du Covid.
C'est ça, j'ai lancé sa marque en plein Covid, sympa.
C'est ça. Et puis après, c'est vrai que moi, j'avais jamais été une chef d'entreprise. J'ai été mannequin, j'ai fait des études de psycho. Donc c'est vrai que j'étais pas du tout armée ou préparée à faire ce métier-là. Donc maintenant je suis aujourd'hui créatrice j'ai envie de le dire en anglais, creative director.
Ouais, directrice de création quoi.
Voilà, directrice de création et founder de La Semaine Paris. En fait, comment ça a commencé? Tout simplement avec le concept de la semaine. C'est-à-dire que j'avais envie de fonder une marque qui habille les femmes dans toutes les occasions. Donc pour moi, les occasions, c'est les jours de la semaine. Donc tu vois, t'as lundi et dimanche qui pour moi sont par exemple deux identités qui sont complètement différentes et où dans mon imaginaire, tu t'habilles de manière différente. Donc c'est parti de là. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de faire un produit de bonne qualité, d'une manière éthique, transparente, et de créer une entreprise qui représente mes valeurs. Donc moi, j'ai été élevée par un homme féministe, donc j'ai baigné dans le féminisme, dans les valeurs féministes depuis que je suis petite. J'ai toujours eu une sensibilité par rapport à la sustainability. Désolée si je dis beaucoup de mots en anglais, mais c'est parce que je vis et je travaille en anglais depuis 10 ans. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses que j'avais envie d'inclure dans ma boîte, mon petit bébé, la semaine Paris. Et en fait, tout simplement, on est parti d'un concept. J'avais autour de moi des filles avec lesquelles je travaillais, que j'aimais beaucoup, dont Georgia, qui est devenue ma CEO, qui d'ailleurs a accouché il y a 2 mois de sa petite. Et une autre jeune femme que j'ai prise sur mon aile, qui s'appelle Cécilia, qui est devenue ma designer junior. Et en fait, avec ces deux personnes, on a commencé à développer le projet. Donc, c'est-à-dire, on a créé nos mood boards, on expliquait un peu le concept de la marque, on faisait voir l'identité, on définissait l'identité des jours de la semaine, comment on les entendait. On a commencé tout simplement après à faire de la recherche sur le monde de la production. Donc, où est-ce qu'on allait produire nos vêtements? Comment? Donc ça a pris énormément de temps. On a décidé de s'associer avec un partenaire industriel qui est basé en Italie, à Bologne, qui produit pour des marques comme Dior, Valentino, etc. Donc on avait une garantie sur la qualité et aussi sur l'éthique, sur la manière dont étaient traités les gens qui travaillaient au sein de sa boîte. Donc on a décidé de s'associer avec lui pour 2 raisons. La première, c'est que c'était plus simple au début de s'associer avec un partenaire industriel qui t'aide à gérer tous tes suppliers au lieu de monter une équipe et faire une recherche pour chacun des suppliers, donc pour toutes les catégories de produits que tu peux avoir. Ce qui nous a beaucoup aidé au début, et aussi parce que c'était un des rares producteurs italiens où c'est quand même un métier où c'est encore très traditionnel aussi dans la manière de penser, qui avait envie de fonctionner sur le modèle des drops, ce qu'on fait nous, donc c'est-à-dire avec des collections qui sont des éditions limitées qui sortent régulièrement. Donc ça a bouleversé la manière dont lui concevait la production. Donc voilà, ça, c'était une étape extrêmement importante. Et en fait, à partir du moment où on a eu ça, évidemment, au début, on n'a pas levé de fonds. Donc ça veut dire que vraiment, ce qui a été investi, c'est mon argent personnel économisé durant mes années de mannequinat. Et j'ai lancé le projet comme ça avec, j'ai envie de dire, mes 2 meilleurs potes. Quelques mois avant la pandémie mondiale, on était loin de se douter de ce qui allait arriver. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de recette. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est juste, à un moment donné, jeté à l'eau. Une fois qu'on avait le concept, qu'on avait le producteur, on a fait une collection. On l'a shooté un peu comme ça. Donc moi, évidemment, j'avais de l'expérience sur les sets parce que j'étais mannequin. Donc je connaissais quelques photographes, quelques mannequins aussi. Donc la première collection, je l'ai shootée sur une amie à moi qui s'appelle Maeva, qui est super cool. Voilà. Et en fait, on l'a fait un peu comme ça et ça a pris. On a eu de la chance. On a réussi à toucher un public. Évidemment, c'était quelque chose qui me faisait peur parce que beaucoup de personnes me connaissent comme une influenceuse, donc ils m'attendaient au tournant. C'était une expérience qui était nouvelle. Ça arrive assez régulièrement aussi que des influenceuses montent des projets où elles sont pas forcément impliquées et qui sont des flops au final parce que je le disais au début, avoir une communauté c'est important, mais c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que les gens qui te suivent et qui te connaissent savent quand un projet a été quand tu es impliqué dans un projet ou pas. Et c'est vrai que sur la semaine Paris, je me suis impliquée corps et âme, et vraiment, je pense que c'est même un euphémisme, et ça s'est ressenti. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'on a rencontré un petit succès rapidement. Et puis après, voilà, ça a été, évidemment, ça a été une année extrêmement challenging. moi, j'avais jamais été manager, tu vois, manager une équipe.
On va en parler.
C'est quelque chose que j'ai jamais fait et je me suis retrouvée à faire ça au milieu d'une pandémie où, à un moment donné, j'ai eu ma production qui était bloquée. J'ai eu peur aussi pour mon équipe. Est-ce que je vais réussir à... Parce que j'étais responsable entre-temps. On a eu plein de galères entre-temps. On devait avoir une levée de fonds qui, au final, a été froze.
À cause de la pandémie.
À cause de la pandémie, alors qu'on avait signé, etc. Donc moi, du jour au lendemain, à 3 jours dans le premier lockdown en Italie, je me retrouve avec mon fonds d'investissement qui me dit « En fait, on va pas vous donner d'argent maintenant. Donc en fait, soit vous survivez jusqu'à ce que ça s'arrête, soit vous êtes mort. » Ça a été un vrai moment où je me souviens, et en plus parce que moi je suis pas du tout une manager, je me souviens appeler mon équipe vraiment au bord des larmes en leur disant voilà, je vous dis ce qui va se passer, la situation c'est ça, on devait avoir ces investissements, vous êtes au courant, voilà ce qu'on nous a dit aujourd'hui, moi je peux rien imposer à qui que ce soit. Voilà, la situation, elle est comme ça. Est-ce que vous êtes in ou est-ce que vous êtes out? Est-ce que vous avez envie de continuer à vous battre et être dans ce rêve-là? Ou est-ce que, au contraire, vous vous dites, OK, c'est pas le moment, etc., etc. Et en fait, là, on a eu beaucoup de chance, c'est que toute mon équipe, les unes après les autres, elles ont dit, j'y suis, j'y crois, et on va le faire. Et paradoxalement, c'est pendant le Covid que la Semaine Paris a vraiment explosé. Donc, ça veut dire que, dans le moment où on était vraiment le plus dans la merde, et je sais pas si on peut dire ça dans un podcast,
vas-y, lâche-toi.
Vraiment, je me suis dit, on va mettre la clé sous la porte. J'avais peur de pas pouvoir payer mes filles,
ton staff,
mes, ouais, mon staff, mais qui sont en plus ma famille. La plupart de, il y a beaucoup de filles de mon staff, mes demoiselles d'honneur. Donc tu vois, c'est vraiment aussi, il y a un côté hyper personnel, etc. Ça a été chaud et en fait, ce qui a été fou, c'est que quand on s'est retrouvé dans la plus grande adversité, on a tout cartonné et c'est là où tu te dis, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que vraiment, nous les femmes, et je veux pas dire ça contre les hommes qui nous écouteront, mais vraiment nous les femmes, quand on est dans des situations d'adversité et qu'on se serre les coudes, on a une force, une ambition, une résilience qui est imbattable. Et vraiment, je l'ai vu au sein de mon équipe à ce moment-là. C'est-à-dire que on était toutes dans des situations extrêmement compliquées parce que évidemment, il y avait des répercussions aussi personnelles, etc., etc. Et il s'est créé une magie qui nous a prouvé qu'en fait, tout était possible. Et ça, c'est un moment, ça a été vraiment un moment clé. Dans le développement de ce bébé-là, la Semaine Paris. Et ce que je dis souvent, et en fait, je me perds quand je parle, mais pour celles ou ceux qui veulent monter un business, je pense que vraiment la chose la plus importante, je pense qu'on le dit pas assez, c'est la team, l'équipe. On investit sur des personnes, pas sur des concepts. C'est-à-dire que le concept, il peut être fou. S'il n'y a pas les bonnes personnes derrière pour savoir le mettre en vie, ça ne fonctionnera pas. Et il y a des concepts qui sont bateaux, qui peut-être ont rien de spécial, qui vont cartonner parce que t'as les bonnes personnes derrière, t'as des gens qui sont passionnés, etc., etc. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment investir sur une équipe, sur des gens de confiance qui partagent les valeurs. En fait, moi, j'ai vraiment choisi une équipe par rapport à leurs valeurs. Parce que souvent, ce que je me dis, c'est que des skills, on peut les apprendre, tu vois. Moi, j'ai appris sur le tas. Hein. J'ai appris sur le tas à faire des vêtements, que j'avais pas de,
background, des photos, etc. Bien sûr.
J'ai appris sur le tas. Donc, t'as vraiment des skills que tu peux apprendre, mais les valeurs, c'est des choses que t'as ou que t'as pas. Je sais pas comment dire.
Mais c'est hyper clair. Et en fait, dans ton histoire, là, ce que je trouve frappant. Et assez rare, et j'ai pas envie de dire je t'en félicite parce que je me permettrai pas, mais c'est tellement rare que je trouve que c'est précieux comme conseil peut-être pour d'autres personnes, c'est que tu t'es entouré effectivement dès le début et que t'as assumé le fait de mettre, comme tu dis, une CEO, c'est quand même assez rare, de toi te concentrer sur la direction de création qui est probablement ta force et qui est aussi le temps que tu peux consacrer probablement à cette aventure et de trouver les bonnes personnes avec les bonnes valeurs. Ça, c'est quand même, je trouve, un signe d'humilité qui est assez dingue.
C'est gentil. Alors en fait, je pense, bon, alors, déjà, je pars souvent du principe que je ne sais rien. Donc voilà, ça commence comme ça. Et je pense que dans ce monde, surtout, voilà, les influenceurs, etc., ou les personnalités qui montent des boîtes, on a souvent tendance, surtout quand on parle de boîtes féministes, etc., d'avoir ces figures qui disent, voilà, je suis CEO, creative director, founder, etc., etc. C'est impossible. On va se dire les choses très clairement. Il est concrètement impossible d'être CEO, creative director en même temps parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Moi, j'ai jamais été une manager, j'ai jamais été capable de... je comprends rien aux chiffres, à l'organisation. Je suis une personne créative, je réponds à mon instinct et j'ai toujours su mes limites et je n'aurais jamais imaginé me mettre la responsabilité de CEO sur ma start-up. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi Georgia qui, elle, au contraire, était ma CEO parfaite, une manager incroyable, extrêmement organisée. En fait, c'est devenu mon bras droit. En fait, on est vraiment yin et yang avec moi qui suis un peu plus la personnalité explosive qui sort avec les idées, etc. Et elle qui arrive à canaliser l'énergie, à mettre les forces là où elles doivent être mises, etc. Et en fait, c'est un équilibre. Et chacun a sa place, chacun a son rôle. Et évidemment, il y a plein de choses que je comprends pas et voilà, même l'e-commerce, on a une fille super qui s'en occupe, ça me viendrait pas à l'esprit d'aller la voir pour lui dire comment faire son travail, tout simplement.
Non, mais une fois de plus, je trouve que ça vaut la peine de le dire parce que c'est assez rare et souvent, tu sais, quand on lance sa boîte, on a envie de tout faire.
Oui, c'est vrai aussi.
Et là, t'arrives en fait à segmenter et c'est peut-être aussi parce que t'as beaucoup d'autres activités malgré tout, donc t'as pas eu le choix, mais je trouve que c'est super, du coup, intéressant parce que ça veut dire que dans la contrainte, tu vois, t'as créé de la qualité, donc c'est quand même assez, assez intéressant. Je voulais te poser une question par rapport au choix de ces personnes parce que tu dis que t'as choisi ces personnes grâce à leurs valeurs. J'ai l'impression que vous connaissiez bien déjà avant. C'est une question que tout le monde me pose. Comment je trouve le bon associé? Comment je trouve le bon associé? C'est hyper dur. Mmh. C'est quoi les valeurs qui comptaient pour toi?
Alors, le féminisme et la sustainability, parce que c'est les valeurs sur lesquelles ont été basées la semaine Paris. Et en fait, j'ai envie de te dire, l'humilité, de manière générale, sur la personnalité des personnes qu'on a, des femmes qu'on a dans la boîte, c'est... Moi, ça m'intéresse vraiment pas de savoir... d'où tu viens, ta classe sociale, ta religion, je m'en fous complètement. Au contraire, moi, j'adore quand on parle différentes langues au bureau. Je trouve que ça apporte seulement de la richesse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des femmes qui sont ambitieuses, qui sont humbles, donc c'est-à-dire qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de travailler dans une start-up parce que très clairement, c'est un style de vie qui est prenant. Voilà, on n'est pas sur une vie bureau 9-to-5 qui peut être assez un peu plus simple, on va dire. C'est quelque chose d'extrêmement prenant. Donc, c'est aussi un choix de vie que, évidemment, je ne juge absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut être conscient que c'est une aventure, quoi. Exactement. Mmh. Mmh. Comment je l'ai choisi? En général, je demande... je fais des questions assez bateaux, c'est-à-dire... pas vraiment les études, mais plus ce qu'elles ont fait dans leur vie, quel travail elles ont fait à côté pour gagner leur vie, qu'est-ce que ça a été les difficultés qu'elles ont dû surmonter, pourquoi, qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin, quelles sont les injustices qu'elles ne supportent pas, qu'est-ce que c'est que leur rêve, ce genre de trucs qui me permettent plus de définir un peu la personnalité. Et en fait, c'est aussi... rencontrer une personne qui partage un rêve, quoi. C'est-à-dire que c'est comme j'ai envie de le comparer presque à une relation d'amour. C'est une magie qui est presque inexplicable. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de rencontrer des profils de femmes qui sûrement étaient extrêmement qualifiées pour le poste, mais avec qui l'alchimie ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'aussi tu fais rentrer une personne dans un groupe. Donc il faut qu'il y a aussi l'énergie de la personne qui compte. Il y a les hard skills, mais il y a les soft skills. Donc comment est-ce que tu communiques? Quelle énergie t'apporte quand tu rentres dans une pièce? c'est aussi des choses qui pour nous sont très importantes, surtout qu'on passe beaucoup de temps ensemble, donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un peu cette alchimie. Ouais, c'est bizarre en fait, je pourrais pas te donner de...
Mais je vois ce que tu veux dire, et c'est drôle parce que tu vois, moi j'ai vachement évolué dans ma manière de recruter. Avant, je recrutais énormément à cause des compétences, un peu avec le CV, je dois dire, et j'ai complètement shifté, et maintenant je suis beaucoup plus dans ton approche, donc comme quoi, tu vois, t'as été très très rapide, parce que moi ça m'a pris 10 ans. Mais maintenant, en fait, je recrute à la personnalité. C'est-à-dire que oui, évidemment, si je recrute un directeur marketing, je vais pas prendre quelqu'un qui a jamais fait de marketing.
Bien sûr.
Mais en fait, au fond, la raison pour laquelle je vais prendre ma décision, c'est vraiment la personnalité de la personne, donc en fait, je trouve ça hyper juste. Et c'est là que ça m'amène à une super transition pour parler de psychologie, puisque je sais que t'as fait des études de psychologie, et qu'au final, j'ai l'impression que tout ça te sert quand même diablement dans cette histoire.
Alors, quelle transition, Pauline.
J'avais pas anticipé, tu vois, mais...
Non, non, t'es trop forte. Tu l'aurais prévu, ça aurait pas été aussi bien. Alors oui, moi j'ai fait des études de psy, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours un peu bizarre parce que je suis passée des études de psy à mannequin à maintenant la semaine Paris. On va dire que c'est un peu les surprises de la vie. Alors, la psy, je pense que, très honnêtement, ça m'a beaucoup plus aidée quand j'étais mannequin, parce que vraiment, pour supporter ce travail, il fallait avoir des ressources psychologiques. Ça m'a aidée plus sur ce, je sais pas, je pense que ça m'a formée, mais plus que les études de psychologie, je peux te dire, ce qui m'a formée, c'est ma psychoanalyse. Moi, j'ai fait une analyse pendant plusieurs années, quand j'étais en fin d'adolescence, parce que j'ai fait une dépression très jeune. Moi, j'ai fait une dépression quand j'avais 17 ans, donc ça m'a aussi forcé à comprendre et à essayer de regarder à l'intérieur de moi et essayer de comprendre un peu ce qui se passait.
Et je suis désolée, je t'interromps, mais t'as compris tôt que c'était une dépression, parce que souvent on met pas des mots dessus, en fait.
Bah alors, moi, j'ai toujours été, j'ai eu la chance de grandir dans une famille extrêmement, c'est même pas ouvert d'esprit, mais où on parle de beaucoup de choses. On a toujours parlé de beaucoup de choses. C'est moi, j'avais parlé de bouddhisme, on parlait de spiritualité, de psychologie, etc., etc. Et en fait, je l'ai identifié comme une dépression au début. Non, j'ai senti que quelque chose n'allait pas parce que je n'arrivais pas à sortir de mon lit le matin. Ni à prendre ma douche.
Oui, donc il y avait des symptômes assez clairs.
Non, les symptômes étaient extrêmement clairs. Et du coup, en fait, c'est moi qui ai demandé d'aller consulter. Et c'est grâce à cette consultation, évidemment, qu'après, j'ai pu mettre des mots sur mes mots. Et du coup, ça m'a... la santé mentale a été quelque chose qui m'a toujours touchée depuis mon plus jeune âge. Et en fait, quand j'ai étudié la psychologie, c'était... un peu, et je pense que ça rentre beaucoup dans le cliché des étudiantes en psychologie. J'avais vraiment besoin de comprendre des choses sur la nature humaine. Mais très honnêtement, j'avais besoin de comprendre la nature humaine. Pourquoi j'avais vu des choses particulières, pourquoi les gens pouvaient réagir de certaines manières, etc., etc. Et en fait, ça a été vraiment un extrêmement enrichissant. Mais en fait, je me suis rendu compte que les études de psychologie, c'est pas une analyse, et c'est pour ça que j'ai fait une analyse à côté, qui m'a évidemment aidée sur un point de vue personnel, parce que je vous recommande à tous et à toutes une analyse, ça fait toujours du bien. C'est une aventure exceptionnelle au fin fond de son âme. Et non, ça m'aide tous les jours dans le sens où aujourd'hui, ça m'a donné un peu confiance en moi, c'est-à-dire que ça m'a reconnecté à mon intuition, ça m'a laisser un peu m'écouter, aussi comprendre parfois, pas réagir forcément par rapport à l'ego, etc., etc. Mettre un peu plus de distance par rapport à nos choix, nos émotions, etc., etc.
Aujourd'hui, comme je sais que le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui te parle et j'ai l'impression en plus depuis de longues années, est-ce que tu as mis en place des petits rituels, des pratiques pour justement être bien dans tes baskets? Parce que c'est pas facile et surtout quand on est aussi exposé que toi quand même sur les réseaux sociaux, je peux imaginer que parfois c'est pas toujours agréable en fait. Avoir une boîte, on sait que là aussi on se prend quand même de sacrés coups durs. Est-ce que tu as des astuces à partager?
Alors, moi, j'ai vraiment fait des tonnes de trucs pour sortir de ma dépression.
J'adore, c'est bien.
Mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Alors, il y avait un truc que je faisais, que j'ai fait pendant plus de 6 mois. Quand je me réveillais le matin, chaque pas que je faisais pour aller jusque dans la salle de bain me brosser les dents, je disais merci pour quelque chose. Donc ça, c'est un des premiers trucs que je faisais le matin, c'était de répéter merci, merci. Alors, il y a des jours où tu te dis merci d'être en vie, merci de respirer et merci... parce qu'il y a un rayon de soleil, ouais. Et il y a des jours où tu te dis merci pour ma créativité, tu vois ce que je veux dire, ça, tu te rends compte aussi qu'il y a des jours où tu te sens mieux que d'autres. J'ai fait ça, je me suis fait des mood boards visuels de ma vie. Parfaite, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait des mood boards dans ma chambre où je mettais des citations qui me donnaient de la motivation, où je mettais des photos de moi dans des situations où j'avais envie d'être, où je mettais des femmes qui m'inspiraient, et tous les jours je me forçais à le regarder et à me visualiser dans ce que j'avais envie de faire et où j'avais envie d'être en fait. Le soir aussi je faisais ça avant de dormir, je me forçais à me visualiser dans ma vie rêvée. Et je dois dire que ça a fonctionné. Très honnêtement, c'est un truc de fou, je vous jure. Je faisais aussi beaucoup de listes. Moi, j'ai toujours été une grande listeuse. J'adore faire des listes. Quand j'ai des moments de doute et que je dois me remettre les idées au clair, je fais des listes. C'est un truc que je fais depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et en fait, il y a beaucoup de listes que j'avais faites aussi par rapport à mes objectifs, mes rêves, etc., etc. Et quand mon père a déménagé de notre appart où j'ai grandi, j'ai retrouvé une tonne de listes et j'ai réalisé que j'avais tiqué quasiment tout ce que j'avais mis sur mes listes. Et en fait, vraiment, tous ces petites choses que j'ai fait au quotidien, elles m'ont vraiment sorti la tête de l'eau. Ça paraît extrêmement cliché, mais ça a vraiment eu un impact fort sur ma vie. Après, quand j'ai commencé à sortir de ma dépression et que j'ai commencé à me sentir un peu mieux, aussi à grandir, à être une femme, etc., etc., évidemment, ça a été aussi compliqué par rapport à mon image, l'image que j'avais de moi-même par rapport au mannequinat, en fait, parce que le mannequinat, c'est un métier où t'as l'impression que les mannequins, elles sont extrêmement belles parce que voilà, c'est les filles qu'on met sur les couvertures de magazines. Mais en fait, c'est un métier où toi, tu prends 10 rejets par jour, en fait. Moi, j'ai passé des années à entendre que j'étais trop brune, que j'étais trop mate, que j'étais trop grosse, que j'étais trop petite, que j'étais trop grande, que j'étais ça toute la journée.
Oui, il y a un jugement permanent en plus.
Un jugement permanent où en fait, tout ce que t'es est basé sur ton physique. Et du coup, c'est extrêmement difficile mentalement, c'est-à-dire que parce qu'en plus, tu te fais rejeter 90% du temps, donc c'est vraiment difficile psychologiquement. Ça aussi, je dois avouer que j'ai fait des exercices où je me regardais dans le miroir et j'essayais de me concentrer sur ce que j'aimais, sur ce que je trouvais être beau plutôt que sur ce que je n'aimais pas, pour essayer de donner de l'espace justement aux choses positives. Ça aussi, c'est un exercice que je me suis forcée à faire qui a eu un impact positif sur ma santé mentale. Et après, oui, de manière générale, je pense que la santé mentale, c'est une pensée, c'est quelque chose qui me suivra toujours. Je prends extrêmement soin de ma santé mentale parce que je sais à quel point c'est important et à quel point ça peut être handicapant de pas l'avoir. Et c'est vrai que quand on est exposé sur les réseaux sociaux, etc., il y a des choses qui peuvent être extrêmement violentes. Moi, j'avais parlé au mois d'octobre, j'ai été diagnostiquée d'endométriose et donc j'ai été infertile. Et j'ai eu quand même une nana qui m'a envoyé des photos et des vidéos de bébés tous les jours en me disant « Regarde comme ils sont beaux, toi tu n'en auras pas », etc., etc. Donc c'est vrai que tu te retrouves confrontée par moments à des trucs qui sont extrêmement durs à avaler, qui touchent des choses qui sont extrêmement sensibles. Et très honnêtement, je vais pas mentir, je ne suis pas armée pour ça. Je pense que je le serai jamais, même si j'essaye de mettre de plus en plus de distance par rapport à ça. C'est quand même toujours très difficile de mettre le bon poids à ce genre de messages qu'on peut recevoir. Je sais pas si c'est un truc que j'arriverai à gérer avec le temps et avec la maturité. Bon, j'ai déjà 30 ans, je me dis franchement, je devrais déjà l'avoir compris, mais apparemment pas. Mais non, ça me touche toujours autant. Je sais pas si un jour j'arriverai à le supporter. Je pense aussi qu'il y a différentes personnalités. Je pense vraiment que moi, j'étais pas une personnalité faite pour être une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis trop sensible et trop entière pour ce métier-là. Et du coup, j'arrive pas à en assumer le revers de la médaille, qui est, par exemple, ce genre de message qu'on peut recevoir par moment. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Je suis là aujourd'hui, donc j'essaye de faire au mieux, mais...
Non, mais tu vois, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens se disent « on peut pas... » On peut pas, comment dire, pleurer sur le sort de quelqu'un qui a tous ses succès. Donc ça, je le comprends. Mais d'un autre côté, je pense que c'est très sain que tu montres qu'il y a vraiment un revers de la médaille et que ce revers de la médaille, il est lourd et qu'en l'occurrence, d'une certaine manière, t'as rien demandé à personne et que cette personne, tu as pas demandé qu'elle te suive. Enfin, tu vois, elle est pas obligée d'être là.
Non, clairement, clairement.
Et je dois dire que ces attaques personnelles, c'est assez dur de s'en défaire. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que t'es plutôt sur la bonne voie.
Non, ça va. Heureusement, ça va. Et heureusement, c'est pas la majorité des cas parce que sinon, je pense que je serais partie depuis longtemps de ces plateformes-là. Mais oui, disons que ça fait partie d'un quotidien. Et c'est vrai que pour en revenir à la santé mentale. Je pense que c'est très important de la préserver, même quand tu disais, voilà, quand t'es une chef d'entreprise, ou même dans ta vie professionnelle, tu t'es souvent confrontée à des moments qui sont difficiles, etc. Souvent, la chose à laquelle je pense, c'est qu'en fait, la chose la plus importante, c'est ma santé mentale. Donc, je vais essayer pour être performante dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, il va falloir que je me nourrisse de ce dont j'ai besoin. Donc j'ai un style de vie qui soit sain, que je dorme bien, que je me réveille tôt, que je fasse mon sport. Ça, c'est le genre de choses qui me permettent d'affronter les difficultés des journées avec beaucoup plus de sérénité, parce que sinon, je pense que j'y arriverai pas. Donc le style de vie, c'est une des choses les plus importantes, je pense, pour se sentir bien. Et c'est vrai que la plupart des psys et les premiers conseils qu'on donne à quelqu'un qui va pas bien, c'est fais du sport. Et ouais. En fait, c'est vrai que faire du sport, ça ouais. fait du bien.
En fait, ça passe déjà par le corps, quoi.
C'est ça. Mm. Ça fait vraiment du bien. Donc, je le recommanderais, ça aussi. Une psychoanalyse et une bonne séance de sport, ça fait toujours du bien.
Je note. Gabrielle, on a parlé pas mal, du coup, d'influenceuse. Et toi comme moi, on n'aime pas trop le mot influenceuse.
Non.
mais malgré tout, un peu par défaut, t'en es devenue une. Et j'aimerais comprendre, en fait, comment ça s'est passé. Parce que je peux comprendre que, en fait, ça n'a pas été une quête de ta part, quoi. J'ai un peu l'impression que ça t'est tombé dessus, cette histoire.
Bah, en fait, c'est très bizarre. C'est-à-dire que, comme je te disais, moi, j'ai été mannequin. Et en fait, quand j'ai vécu un peu en Australie, et quand j'étais en Australie, où ils étaient vachement en avance sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., j'ai commencé à comprendre que, parce que j'étais pas suivie sur les réseaux sociaux, on n'allait pas me donner de job en tant que mannequin. Qu'en fait, déjà, sur le mannequinat, ils privilégiaient les filles qui avaient un following sur Instagram. Et en fait, quand j'ai été confrontée à cette réalité-là, évidemment, j'ai pris au sérieux ce que je postais sur Instagram. C'est-à-dire qu'avant, moi, je postais tout et n'importe quoi. Les images les plus moches, mais de tout, de ce que je mangeais, de ce que je voyais, d'un truc par terre, enfin voilà. Et en fait, j'ai compris que c'était une carte de visite. Et quand j'ai compris que c'était une carte de visite, j'ai commencé à l'utiliser comme mon book digital où je montrais en fait le travail que je faisais, les photographes avec lesquels j'avais travaillé, etc. Et donc évidemment, en faisant ça, j'ai commencé à avoir du following, des gens qui ont commencé à me suivre, etc. Et alors en fait, c'était assez drôle parce que évidemment, j'avais une grande majorité d'hommes qui me suivaient au début sur les réseaux sociaux parce que bon, voilà, mannequin en Australie, c'est assez cliché, mais c'était comme ça. Et en fait, après, je suis partie m'installer à New York. Et donc, je suis passée de la mannequin un peu swimwear à la plage à une mannequin un peu plus mode. C'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon image. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à poster d'autres choses que moi en maillot de bain en Australie, où j'ai commencé à poster en fait mon style, aussi des choses qui m'intéressaient. J'ai commencé à m'exprimer, raconter ma vie, mais pas raconter ma vie, mais m'exprimer un peu sur voilà ce dont on a parlé, la santé mentale, etc., etc. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment créé une communauté avec laquelle je me suis attachée. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à me parler et à me dire que j'étais influenceuse, alors que moi, j'étais encore mannequin. Et c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Je dois dire que j'ai trouvé ça extrêmement bizarre et en même temps, j'étais assez contente parce que je me suis rendu compte que les influenceuses gagnaient beaucoup mieux leur vie que les mannequins en faisant beaucoup moins, ouais. Très honnêtement. Moi, quand j'ai compris que en bossant 4 jours sur un set, une influenceuse, elle pouvait gagner ça en faisant un post sur Instagram, je me suis dit, hey, alors tu sais quoi, je vais peut-être changer de métier hein, dans ce cas-là. Après, je me suis rendu compte que c'était plus que ça, évidemment, parce que il y a tout un revers de la médaille qui est assez pesant, mais c'est vrai qu'en fait voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup Bah, je suis devenue influenceuse sans vraiment ni le vouloir, ni le comprendre. C'est une étiquette que j'ai du mal à gérer, comme tu le disais. Voilà, il y a des aspects que j'aime, c'est-à-dire que dans le mot influenceuse, il y a le mot influence. Donc moi, j'aime bien l'idée de se dire que voilà, quand on a une communauté sur les réseaux sociaux, on peut l'utiliser pour faire partager, faire passer des messages, pour échanger, peut-être aussi bouleverser un peu des choses, tu vois.
Bah, franchement, je pense aider des personnes. Tu parlais de l'endométriose, mais je pense qu'il y a énormément de personnes, j'imagine, de ta communauté qui ne savaient absolument pas ce que c'était.
Ah non, c'est sûr. Ouais,
et
ouais.
Donc, il y a quand même un côté, effectivement, influent, c'est-à-dire que tu éduques, quoi. Franchement, surtout que j'imagine qu'il y a aussi des personnes parfois plus jeunes qui n'ont pas accès à certaines informations.
Bah après, par rapport à l'endométriose, moi, ce qui a été assez flagrant, c'est que vraiment, j'ai reçu des milliers de messages de filles qui sont allées chez le gynécologue après ce qui s'est passé pour moi et qui se sont faites diagnostiquer grâce à ça. Donc, il y a vraiment eu un impact. Et après, par exemple, en Italie, moi, je suis entre l'Italie et la France. Et c'est vrai que, par exemple, le fait de parler de l'endométriose, ça a aussi ouvert beaucoup le dialogue. Il y a eu des émissions de télé qui ont été faites par rapport à ça, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un impact concret que j'ai vu qui a été positif. Donc, ça, c'est l'aspect de l'influence qui me plaît, qui me rend fière aussi, très honnêtement, et qui aussi me donne envie d'être sur cette plateforme. Voilà, c'est les messages de ces femmes qui me racontent leur expérience, d'avoir une espèce de communauté où on se soutient les unes les autres dans les bons et les mauvais moments. Et après, évidemment, t'as le côté un peu nul de l'influence où au final c'est la surconsommation, c'est l'apparence à tout prix, c'est la superficialité, etc., etc. Donc c'est vrai que t'as un peu tout dans l'influence, t'as un peu tout dans ce qu'on appelle les influenceuses. Il faut savoir faire le tri et c'est vrai que il y a tellement de connotations négatives par rapport à ce mot que parfois ça peut être difficile aussi de le porter, quoi.
Ouais, complètement. Mm. Toi, t'as eu un moment un peu cliqué dans ce succès colossal de ton following. C'est-à-dire, est-ce que tu te rappelles justement d'une action, d'un engagement, d'une décision qui a fait que ça a quand même pas mal explosé, ou est-ce qu'au contraire, ça a été quelque chose d'extrêmement graduel et ça s'est juste fait avec du temps et en fait beaucoup d'efforts quand même?
Ça s'est fait avec du temps et beaucoup d'efforts. Ça, c'est sûr. Je pense très honnêtement que le fait... En fait, un tournant qui a été pour moi, ça a été le moment où j'ai commencé à m'exposer, en fait, à m'ouvrir sur les réseaux sociaux et en fait où j'ai partagé qui je suis vraiment. Mes expériences, mes combats, mes valeurs, etc. C'est ça qui a eu un impact, en fait. Parce que voilà, je suis un peu passée de la mannequin un peu mignonne qui s'habille bien à quelqu'un qui s'exprime, qui parle de sujets qui sont pas forcément faciles, etc., etc. Et ça, clairement, ça a été un tournant important que j'ai fait naturellement, en fait, tout simplement parce que je me suis sentie la responsabilité de le faire. Et après, non, clairement, ça n'a pas été du jour au lendemain. Il y a un truc dont je me souviendrai toujours. Un jour, c'est quand j'étais à Paris et que j'allais dîner avec mon père et qu'il y a deux filles qui m'ont arrêtée dans la rue pour faire des photos. Et c'était très drôle parce que mon père, qui ne connaît rien aux réseaux sociaux, s'est tapé une barre. Il me disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire une photo avec toi? Mais ils n'ont pas compris qui tu es. J'ai dit, si, si, gros bâtard. Et ça, c'est un moment qui m'a marqué parce que, bah, déjà parce que c'était avec mon papa et que moi, j'ai été élevée par mon papa. Donc, on a une relation qui est hyper hyper forte et puis en même temps c'est quelqu'un qui voilà qui m'a élevée, donc il y a pas de statut vis-à-vis de mon père. Je pourrais être Madonna et je suis très loin de l'être, je resterai toujours son petit bouchon jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est vrai que le fait d'être avec mon père et d'avoir ces deux jeunes filles qui d'ailleurs étaient superbe, ça a été un moment où je me suis dit waouh, quelque chose a changé. Je suis dans ma ville et il y a des gens qui m'arrêtent alors que je vais manger chinois avec mon papa un jeudi soir. Quelque chose s'est passé. Et voilà, ça a été une des premières fois où je me suis dit ok, en fait ces chiffres sur internet ça a un impact après sur ta vie réelle au quotidien. Et bon, après pour moi je dois dire que ça a toujours été un plaisir. Moi, quand je, en ce moment, c'est le Covid, donc c'est plus possible. Mais moi, à chaque fois qu'on m'arrête dans la rue, je suis du genre à faire des câlins, à prendre les gens dans les bras, à dire, mais oui, merci, on fait des photos. Oui, Kat, si tu veux. Tu vois. D'ailleurs, ça me manque. J'ai hâte qu'on puisse se prendre dans les bras. Encore.
Comme je comprends. Tu disais, c'est marrant parce que t'es pas la première personne qui m'a dit ça, que finalement ça a commencé à décoller finalement ta carrière quand t'as commencé à être toi-même et à t'exposer d'une certaine manière, à assumer. Avant, tu le faisais pas par manque de confiance en toi, par peur peut-être.
Non, en fait, avant, je le faisais pas tout simplement parce que je m'en sentais pas la responsabilité, parce que je voyais les réseaux sociaux vraiment comme un bouc, comme un moyen de faire montrer mon travail, et j'étais mannequin, donc c'était vraiment soit belle et tais-toi. On me demandait mon avis sur rien. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à voir que cette communauté grandissait et que j'ai commencé à recevoir des messages de filles qui me disaient « Mais comment est-ce que tu fais? T'as toujours l'énergie, t'as toujours la pêche, comment tu fais pour être positive ?» Un que je me suis dit, en fait, il va falloir que je leur dise qui je suis et ce que j'ai traversé, parce que non, c'est pas vrai. Et en fait, c'est quand j'ai compris que dans l'esprit de certaines personnes, je pouvais être un espèce d'exemple de femme super forte, super positive, etc., que je me suis dit, peut-être que ça va les aider de savoir que, en fait, j'ai pas toujours été comme ça, que je le suis pas, et que si on me disait, je disais à la Gabrielle Conésil de 15 ans, un jour les gens diront ça toi, je pense qu'elle l'aurait jamais cru, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est là où je me suis dit, ok, j'ai une responsabilité, et je dois m'exprimer un peu plus sur ce que je suis, même si c'était pas évident. La première fois que j'ai parlé de la santé mentale et que je me suis ouverte sur le fait que j'ai fait une dépression, etc., j'ai vraiment eu l'impression de me jeter dans le vide. C'est-à-dire que je me souviens écrire cette caption, les larmes aux yeux dans mon jardin, presque en train de pleurer de ce que je suis en train de dire, le poster, jeter mon téléphone, avoir le cœur qui bat à fond, et me dire, bah, ça y est, en fait, tu vois, c'était comme si j'avais enfin, je sais pas, j'avais fait tomber un masque. Et puis après, voilà, tu t'exposes, évidemment, comme on disait, plus tu t'exposes et plus tu t'exposes d'une manière sincère et transparente, plus on peut t'attaquer et te faire mal, évidemment, hein, parce que tu mets au regard de tous tes blessures, donc c'est plus facile de les atteindre et de les toucher. Mais j'ai eu de la chance parce qu'au final, j'ai une communauté qui est dans sa grande écrasante majorité positive, bienveillante, etc. Mais oui, je pense que de toutes les façons, il faut être soi-même. Les gens, ils le perçoivent quand on essaye de jouer un rôle. Et puis je pense que de plus en plus, on a besoin de réalité. On a besoin de gens qui sont comme ils sont. Tu vois, moi, j'aime bien suivre. Parfois des filles qui passent leur temps à dire des gros mots, qui sont un peu gauches et qui... Parce que je les sens vraies, quoi. Parce que je me dis que c'est pas une façade. Et c'est ça dont j'ai envie. J'ai envie de suivre des personnes qui sont aussi accessibles, humaines, vraies. Et donc, voilà, le meilleur moyen d'être comme ça, c'est d'être soi-même, tout simplement.
Tu disais, quand t'étais plus jeune, t'avais ce mur, ce mood board avec notamment des femmes que t'admirais. Mm-hmm. Et une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des personnes que t'as admirées, des mentors que t'as eues, hommes ou femmes d'ailleurs, dont tu pourrais nous parler? Ça peut être à l'heure actuelle, ça peut être dans ta plus tendre enfance, ça peut être justement sur ce fameux mur de mood board.
Moi, j'ai beaucoup d'icônes dans mon imaginaire. Alors, Catherine Deneuve, voilà, Catherine D'accord. Deneuve, si tu m'écoutes, je
Catherine.
T'aime. Voilà,
le mot
Catherine,
est passé.
Catherine, je t'aime. Je sais pas pourquoi Catherine Deneuve, j'ai toujours une fixette sur Catherine Deneuve. Je pense que c'est pour son élégance. Voilà, ça a été une femme qui m'a toujours inspirée. Après, bon, j'ai ma grand-mère qui m'a toujours inspirée parce que c'est une femme extrêmement douce et en même temps extrêmement forte. Bah, Simone Veil aussi, je l'avais sur mon mood board parce que j'avais beaucoup d'admiration. Pour ses convictions, pour sa force, pour sa détermination, son côté un peu révolutionnaire aussi. Brigitte Bardot, parce que je trouvais qu'elle avait une frange magnifique.
T'es assez 60s, hein, quand même.
Ouais, moi, très vintage. je suis ça. Une vibes très vintage. J'ai très peu d'héroïnes moderne, en fait.
Ça va bien avec le style de la semaine Paris,
bah,
en plus.
En fait, tu vois, c'est ça. Hein. Au final, la pomme ne tombe pas loin de...
C'est ça.
Et ouais, non, c'est, j'ai un peu ça, comme dans mon imaginaire, des femmes que j'ai sur mon mood board. Et puis après, j'ai mon papa. Très honnêtement, mon père, c'est mon héros. Bon, je pense que j'ai un gros truc de deep là-dessous, mais ouais, mon père, c'est un héros de ma vie. Donc lui, il a pas besoin d'être sur mon mood board parce que je le vois assez régulièrement.
Pour terminer, j'aime bien poser des questions aussi personnelles que ce que je t'ai posé précédemment, parce qu'on est quand même déjà, on a parlé pas mal de santé mentale, donc je pense que là, au niveau perso, on y allait. J'appelle le crible du gratin. Et la première question de ce crible, c'est: est-ce que tu as vécu un échec marquant dont tu pourrais nous parler, pas tellement pour remuer le couteau dans la plaie, mais plutôt parce que souvent on en tire un enseignement que tu pourrais peut-être partager avec nous?
Alors, j'en ai eu pas mal, des échecs, très honnêtement. Alors, j'ai eu un échec dans le mannequinat, par exemple. C'est-à-dire que, à un moment, c'était à la fin de ma carrière. D'ailleurs, ça a été un échec qui m'a fait changer de carrière. C'est drôle, hein. J'étais à deux doigts de faire le show de Victoria's Secret. Donc, j'étais rappelée pour la deuxième fois. Et en fait, j'étais dans les 10 dernières, filles avant d'arriver sur le show. Et en fait, ça a été assez terrible parce que la première fois que je m'étais présentée d'une manière extrêmement naturelle. En fait, j'avais pas eu de préparation physique, etc. Donc, j'étais allée comme je suis moi. Et ça avait beaucoup plu. Et en fait, la deuxième fois que j'y suis allée, avec l'agence qui m'a dit que j'étais trop pulpeuse, qu'il fallait que je fasse du sport, qu'il fallait que je sois ci, que je sois là. Et du coup, en fait, pendant 6 mois, je me suis affamée. Et j'ai fait, je pense, je sais pas combien d'heures de sport par semaine, mais bref, je suis devenue une machine, très clairement. Et je suis arrivée sur ce casting épuisée, en fait. C'est-à-dire que j'étais devenue un robot. Ça a été un échec, extrêmement pesant aussi, parce que je m'étais préparée physiquement, j'avais fait tellement de sacrifices pour arriver à ce corps qu'on m'avait demandé d'obtenir. Et en fait, c'était une connerie de A à Z. Et la première leçon que j'en ai tirée, c'est plus jamais. C'est-à-dire que je n'ai plus envie d'être jugée pour mon physique. Donc voilà, ça, c'était une leçon qui a été assez importante parce que ça m'a permis aussi d'arrêter le mannequinat. Ce que j'ai décidé, voilà, ça y est, c'est terminé. Et puis aussi, ça a été aussi une bonne chose, bizarrement, c'est drôle, hein, parce que ça a été le dernier show avant que Victoria's Secret devienne un truc extrêmement cliché. Maintenant, Victoria's Secret, c'est ridicule presque, parce que ça représente cette femme de cette manière-là, alors qu'aujourd'hui, on est voilà sur une représentation de la femme qui est heureusement plus diverse, plus riche, etc. Et donc, en fait, ça a été fou parce que je me suis dit, avec du recul évidemment, parce que quand j'ai été refusée, j'ai pleuré pendant une semaine et j'ai mangé McDo pendant une semaine. mais ça m'a aussi permis de réaliser que parfois, quand des choses se passent pas, c'est que c'est mieux comme ça. Il faut pas essayer de forcer le destin. Et aussi, il faut pas essayer de changer sa nature pour obtenir des choses. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai écouté cet agent-là. J'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Ça m'a montré une détermination énorme parce que vraiment, je suis allée à l'encontre de la physique pour obtenir ce que je devais obtenir. Donc vraiment, j'ai une force mentale qui a été extrêmement, extrêmement importante. Mais en fait, je me suis rendu compte que mettre une force mentale à l'encontre de soi, ça n'en vaut pas la peine. Et donc ça, ça a été une bonne leçon dans ma vie. Après, il y a eu aussi... l'infertilité, ça a été quelque chose qui a été aussi assez difficile, mais ce qui a été extrêmement positif, c'est que quand j'ai été diagnostiquée au mois d'octobre, c'était quelques jours avant mes 30 ans. Donc c'était vraiment pas un anniversaire sympathique. Mais en fait, ce qui a été génial, c'est que je me suis rendu compte, grâce au fait d'en parler sur les réseaux sociaux, de créer une communauté, de libérer la parole, qu'on pouvait transformer qu'on se devait, de transformer une expérience extrêmement négative et triste en quelque chose de positif. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire toute ma vie, de tous les jours, de toute ma vie. C'est de me servir des expériences, et même les expériences les plus moche, regrettable, d'en tirer quelque chose de positif et d'essayer d'en tirer une force, ou pour moi ou pour les autres. Pour l'endométriose, pour moi, ça a été en fait d'essayer d'aider les autres d'essayer que les femmes se fassent diagnostiquer à temps et pas trop tard et de pas en arriver à des situations un peu trop extrêmes. Et voilà, c'est une leçon que j'en ai tirée et qui m'a donné de la force et que je tiens avec moi tous les jours.
Je te remercie en tout cas pour tous ces partages. Alors, autre question, s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie pro, perso, qu'est-ce que tu referais différemment?
Ouh.
Elles sont pas faciles, mes questions de la fin. Hein.
Ouais, c'est, elles sont
un peu lourdes.
Ouais, elles sont dures. Alors, je vais te dire, en fait, je pense que... Je sais pas si j'ai fait des bêtises, hein. J'en ai fait beaucoup des bêtises, je continue d'en faire. Je suis vraiment loin, loin d'être parfaite et je suis vraiment loin d'avoir un parcours parfait. Mais en même temps, je sais pas si j'aurais envie de changer quoi que ce soit parce que toutes mes erreurs, elles m'ont appris quelque chose. Elles m'ont donné des leçons, parfois des leçons certaines plus faciles que d'autres à accepter ou à digérer. Mais elles m'ont apporté une pierre à l'édifice qui est mon expérience. Et je sais pas, j'ai peur que si demain on me donnait une baguette magique et qu'on me disait voilà, tu peux changer ça, peut-être que ça changerait le cours de toute ma vie, tu vois.
Ouais, l'effet papillon, quoi.
Ouais, je sais pas si j'aurais envie de changer le cours de ma vie. J'ai pas une vie parfaite, mais j'aime ma vie. Je suis bien dans ma vie et même si j'ai encore beaucoup de choses à faire, je garde toutes mes blessures, tous mes faux pas et mes erreurs. Et la liste est longue, mais je l'assume.
Je prends cette réponse avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui te plaît, qui te supporte peut-être et que tu as envie de partager avec nous?
Alors j'en ai deux. It's okay not to be okay. Voilà, donc ça c'est mon motto dans la vie. Je l'utilise, je l'use, je me le répète parce que j'ai tendance à être toujours dans. Je me force à être extrêmement performante, productive, etc., etc. Et j'ai tendance à me culpabiliser beaucoup quand je ne le suis pas. Et donc c'est vrai que je me répète parfois cette phrase pour me dire ok c'est bon, t'as le droit de souffler un jour, t'as le droit de pas être au top,
faire une pause quoi.
Ouais, t'as le droit de rester en pyjama et de rien faire si t'as envie. Donc ça m'aide. Et une autre où j'en ai fait un t-shirt, c'est mort pasta les drama. Voilà, c'est tout simplement ça.
C'est la
ça.
Vie quoi.
Exactement.
C'est d'ailleurs un voilà. Truc qui nous rapproche pas mal l'amour des pâtes. Enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres que tu as lus donc et qui t'ont marqué, que tu as envie de recommander parce qu'ils ont peut-être changé ta perception de qui tu étais ou de la vie?
Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, je le recommande. Alors moi, je l'ai lu quand j'étais assez jeune parce que mon père me l'a fait lire.
Ce qui est quand même assez original, on peut le dire.
Ah non, mais moi j'ai un père qui est génial.
C'est
hein.
Dingue.
Ouais, non, lui il devrait être sur ce podcast, il est exceptionnel. Et donc lui, il m'a fait lire ce livre assez tôt. Et en fait, ça a été un choc pour moi parce qu'évidemment, moi je m'étais jamais posé la question du genre, est-ce que c'est quelque chose qui est construit ou pas, etc. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience de l'aspect éducatif, social du genre très tôt. Donc ça a été super intéressant. Les leçons sur la psychanalyse de Freud, évidemment, ça a été un livre qui a été un petit bouquin aussi que j'ai lu quand j'étais jeune, qui a été le début d'une longue aventure, parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire ma psychoanalyse, qui m'a donné envie d'étudier la psychologie. Le pouvoir du moment présent, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée quand j'avais des difficultés à surmonter et que j'avais des petits problèmes avec l'anxiété, la dépression, donc voilà, je les recommande.
C'est celui de Eckhart Tolle, c'est ça?
C'est ça, exactement. J'essaye jamais de prononcer son nom parce que
je
me plante
dans
à chaque
les notes,
fois.
Mais effectivement, voilà. C'est un très bon livre. Gabrielle, merci. Tu nous as fait voyager,
merci.
Tu nous as emmené partout. Si on veut te suivre, suivre tes aventures, ça se fait donc beaucoup sur Insta.
Oui, en général, il faut me suivre sur Insta. Alors il y a des moments où je suis beaucoup beaucoup plus silencieuse que d'autres. Ça dépend de tout le travail que je dois faire en back office, mais oui, c'est là qu'on me suit.
Donc, on te suit sur Insta, on suit la semaine Paris.
Oui.
Et si on veut vraiment, vraiment, vraiment être sûr de voir ton message, on t'envoie un DM, on fait quoi?
Ah, DM ou email. Moi, j'ai mon mail sur, sur Instagram et les emails, je les lis tous.
Bien voilà, ce sera dit.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.